Quelque part au Moyen-Orient, perdu dans les entrailles des terres et des sables, oublié de la plupart des hommes, dorment 3000 ans d'histoire. Bienvenue aux Antiquités Orientales, l'émission qui vous emmène sur les traces des grandes civilisations du Moyen-Orient, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Dans l'épisode d'aujourd'hui, le dernier consacré à l'Égypte, nous ne parcourons pas le monde des humains en le surplombant comme nous l'avons fait dans le dernier épisode. À travers le mythe que je vais vous conter, nous irons tout droit dans le monde des dieux, avec ses paysages, ses créatures et son langage, tous plus étranges et surprenants les uns que les autres. Nous irons aussi découvrir comment la mort et la vie terrestre sont, chez les Égyptiens, profondément intriquées, et surtout pourquoi l'égyptologue Yann Hassman écrivait en 2005 cette phrase dans un livre consacré à l'étude de la mort dans le contexte de la culture égyptienne, « La mort est à l'origine et au centre de la culture ».
Vous écoutez bien les Antiquités Orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Au moment d'écrire ma narration du mythe, je me disais naïvement que ça n'allait pas être très compliqué. J'allais probablement adapter ici et là une traduction sérieuse et scientifique du texte en un récit, principalement parce que je voulais vous le conter à vous, chers auditeurs, comme un Égyptien le conterait à son compagnon de route. Mais quel ne fut pas ce tout mélange de surprise et de désespoir qui m'envahit lorsque j'ouvris pour la première fois la traduction du texte la plus rigoureuse que je trouvais. Le mythe était, même pour moi qui avais eu la chance d'étudier l'Égypte durant une année, complètement incompréhensible. Vous vous demandez sûrement pourquoi, après tout, un mythe, c'est une histoire, non ? En fait, pas tout à fait. Un mythe, c'est un récit, certes, mais un récit culturel. Il s'attelle à expliquer le monde, il donne des réponses à l'homme sur ses origines, son fonctionnement, sa structure. Il ne répond d'ailleurs pas à une logique rationnelle, des personnages apparaissent, disparaissent, changent de forme ou de nom, sans explication, car ce qui importe dans un mythe, ce n'est pas son scénario, ce sont les symboles qu'il porte. Ainsi, le mythe dispose plutôt de sa propre logique, avec des références dont la symbolique n'est compréhensible que par celui ou celle qui appartient au milieu culturel de son origine. C'est pourquoi j'ai essayé d'adapter ce texte, qui culturellement nous est donc très lointain, en une histoire, une narration qui élide certains passages obscurs de l'original et rationalise à notre égard ce que le mythe raconte. Le récit que vous allez donc découvrir aujourd'hui est contenu dans ce que l'on appelle le livre de l'âme d'Oïte. Il raconte la traversée de la d'Oïte, le monde des morts, par le dieu soleil Ré. Le matin, il sort de la terre à l'est, naviguant sur sa barque dans le ciel tout le jour durant. Mais une fois le crépuscule arrivé, le dieu plonge sous l'occident, au cœur de la d'Oïte, pour toute la nuit. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter l'histoire de ce voyage dans le monde des morts, où le soleil passe, comme chacun de nous, toutes les étapes du chemin qui mènent à la renaissance. Un ciel, rouge de sang, voit arriver Ré sous les traits d'un vieil homme, devant la porte de l'Occident. Cet aspect de Ré est celui d'Atoun, le dieu du crépuscule, le soleil mourant. Il est accompagné de plusieurs divinités, destinées à guider et protéger son voyage, le moment venu. Isis, la déesse magicienne, est à la proue de la barque. Horus, le dieu céleste à tête de faucon, se tient derrière le dieu soleil, son père. Seth, le dieu de la confusion et du désordre, attend sur le quai pour les accompagner. Des babouins, animaux attitrés de Ré qui gardent la porte, font montre de leur malice en chamaillerie, le long de l'embarcation qui heurte doucement le quai. Ré, s'adressant à eux, leur demanda d'entrer et ces babouins lui répondirent « Ouvert pour toi est le cachet. Grandes ouvertes sont pour toi les portes de la plus grande cité. Tu t'approches du lieu d'Osiris, dieu des morts, premier des Occidentaux. » Sur ces mots s'ouvrit alors la porte de la d'Oïte, qui découvrit un paysage paradisiaque fait de végétation abondante et de rivières sinueuses. D'un vert parfait, les papyrus qui bordent le fleuve de la d'Oïte retenaient l'odeur des dattiers, heureux habitants des rives. Dans cette étendue, allaient et venaient des milliers d'ombres pour en récolter les fruits sous le regard bienveillant des dieux de la fertilité. Ce sont d'ailleurs ces dieux qui offrirent à Rê nombre de plantes fabuleuses, symbole de la renaissance qui va advenir. Comme ces plantes fleurissent chaque année, Rê prendra à nouveau vie au bout de son voyage. La prochaine étape est la confrontation entre le dieu soleil et ses ennemis. En cet endroit, les rives de la Douate s'enflamment sous les corps calcinés des opposants de Rê. D'autres sont engloutis par les eaux du fleuve sous l'embarcation. Le soleil ne peut avoir d'ennemis. Les voyageurs naviguent jusqu'aux eaux d'Osiris, l'endroit où reposent les morts. La barque file doucement le long du rivage où s'entassent leurs corps, sans vie. Rê se met à briller. Ses morts attendent sa lumière. Alors, le dieu soleil les appelle par leur nom, un par un, et tous se relèvent à mesure que Rê les dépasse. À l'orée de la quatrième heure, l'embarcation s'enfonce sous la surface de la Douate. Rê et son cortège comprennent qu'ils arrivent au pays de Sokar, le dieu des morts à tête de faucon. Ici, même la lumière du dieu soleil est imperceptible. Les ténèbres du pays de Sokar engloutissent tout, et seules les voix désincarnées de ses sinistres habitants peuvent être entendues. La barque touche le fond, elle n'avance plus. Les compagnons de Rê vont devoir tirer l'embarcation sur des centaines de kilomètres de désert. Soudain, alors que la barque glissait sur le sable, le bois craque. Il se met à grandir, s'allonge, ses rainures se parent bientôt d'écailles lisses et scintillantes, et la proue devient la tête d'un gigantesque reptile. La barque s'est échangée en un serpent, car seul un serpent peut s'aventurer dans ce désert qui en est rempli. La traversée du pays de Sokar s'achève lorsque l'étendue de sable, qui s'étalait à perte de vue, laisse place à un parterre rocailleux. La barque est revenue dans sa forme initiale et l'eau pointe faiblement le bout de son nez. Les dieux venaient d'entrer dans la caverne de Sokar. Rê le sentait, sa lumière faiblissait et ses forces abandonnaient son corps qui ploya. La caverne laissa échapper un bruit et des battements d'ailes venant de part et d'autre de celle-ci se rapprochèrent. Se faisant de plus en plus fort, ils s'arrêtèrent tout près du dieu. Nephthys et Isis, changés en oiseaux, venaient de se rejoindre auprès du soleil mourant. Leurs yeux embués délivrèrent sur le front du vieillard des larmes qui ressuscitent les morts. Alors, Rê, le cadavre, le mort, se réveilla, et son corps se transforma en un serpent à deux têtes. Le dieu venait de fusionner avec sa forme la plus pure et la plus brute, son ba, une composante spirituelle de chaque être quittant le corps au moment de la mort. Le soleil pouvait maintenant entamer sa résurrection. La barque, s'engouffrant profondément dans la caverne, voguait maintenant sur les eaux de Noun, l'océan primordial d'où Rê avait émergé, bien avant la naissance du monde. Soudain, le courant s'accéléra. Quelqu'un, ou quelque chose, faisait baisser le niveau de l'eau à la vitesse de l'éclair. La barque tangua, virevolta parmi les vagues qui se fracassaient contre sa coque. Tant bien que mal, Rê se hissa sur le rebord de la barque et jeta un regard par-dessus. Ce qu'il vit le terrifia. L'eau venait de s'effondrer sur un trou, tellement noir qu'aucune lumière ne pouvait s'en échapper. Une ombre, haute comme le ciel et large comme la terre, s'en éleva. Le monstre, aux écailles acérées, ouvrit ses paupières et révéla dans ses yeux le brasier de ténèbres qui l'habitait. Apophis, le serpent du chaos, se dressait devant Rê et son équipage. Ses mâchoires engloutirent peu à peu toute l'eau de la Douate, gonflant son corps jusqu'à ce que son ombre sinueuse ait bloqué toute la caverne. Comme chaque jour, Rê n'avait pas le choix. Devant lui allait se jouer, encore une fois, le combat de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort, de l'ordre contre le chaos. le dieu soleil fit venir devant lui Isis et Seth, ses plus grands magiciens, et leur dit « Par votre bouche et par vos mains, je suis venu éclairer celui qui est dans les ténèbres. » Alors, ces deux magiciens s'avancèrent à la proue de la barque, tendirent leurs mains et récitèrent leur magie. Au début, le corps puissant d'Apophis ne bougea pas. Mais Isis et Seth clamèrent plus haut et plus fort leurs incantations. Le serpent se contracta et ne tarda pas à fléchir sous le poids de la magie. Le moment était donc parfaitement choisi. Rhée ordonna à deux déesses de son entourage de se jeter sur Apophis. La première noue une corde autour de la tête du monstre, tandis que la seconde le transperce de 1000 couteaux. Le géant, trop lourd et trop faible pour tenter quoi que ce soit, s'effondre. Les flammes qui habitaient son œil s'éteignirent et des fleuves entiers d'eau primordiale se jetèrent de son corps, sans vie. Rhée, d'un ultime rayon, dissout les restes du serpent et l'ordre du monde avait gagné. La barque poursuivit son chemin, sur des eaux tranquilles et apaisantes. Épuisés, les dieux s'y prélassèrent et célébrèrent leur victoire, avec pain et bière. À la 10e heure de la nuit, le cortège vit flotter un corps, au loin. Il venait d'entrer dans les eaux des noyés, où se trouvent tous ceux que le Nil a dévorés. Ces morts n'ont pas reçu de sépulture. Leur corps dans la douate ne recevait pas d'offrande de la part d'aucun vivant. Et leur nom n'était plus prononcé par personne, ce qui est en Égypte le pire sort qui peut vous être réservé. Horus, alors pris de compassion pour ceux qui errent dans la douate, leur adressa ces mots. « À ceux qui sont renversés, aux noyés qui sont dans le Noun, qui appartiennent au monde des ténèbres, vos corps ne sont pas décomposés, vos chairs ne sont pas décomposées. Vous êtes ceux qui flottez à la suite de mon père, Rhée, afin que votre âme vive. » Les noyés reçurent nourriture et eau pour alimenter leur corps, et le bateau poursuivit sa route. Malgré sa victoire sur Apophis et son repos, Rhée demeurait très affaibli par le voyage. Sa mort, au début de la nuit, lui avait fait perdre l'œil avec lequel il voit tout, celui qui surveille le monde et qui éclaire ce qui est juste. Serhmet, déesse des épidémies, se présente à lui avec Thoth, le dieu du savoir et de la sagesse. Même le plus grand des poisons peut guérir, à condition d'être manié sagement. Il concocte une potion et use de la magie pour rendre à Rhée son œil. Son corps, maintenant complet, pouvait achever sa renaissance. D'un serpent à deux têtes, Rhée se changea en Répri, dieu scarabée qui en Égypte symbolise le soleil naissant. Voguant sur les flots, la barque rayonnait, comme le monde qui l'entourait. Le ciel était d'or, l'eau de lapis-lazuli et la terre parsemée de turquoise. Elle s'ouvrait sur la porte de l'Orient, la porte du jour, où Rhée pouvait enfin répéter son cycle parmi les vivants.
Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM à la découverte de l'histoire.
Le livre de l'âme douate que je viens de vous raconter n'était pas un texte accessible à tous. Bien au contraire, il est uniquement réservé au tombeau du roi d'Égypte sur les murs duquel il était peint. Le mythe, qui, rappelons-le, s'articule autour de Rhée, est le miroir du voyage que le pharaon entame pendant sa mort, lui dont le lien avec le dieu soleil est considéré par les Égyptiens comme étroit, voire fusionnel. Ce récit n'est pas qu'une simple histoire pour expliquer le cycle solaire, puisqu'en égyptien, âme douate signifie littéralement ce qu'il y a dans la douate. Il a donc pour vocation de décrire tous les êtres et les endroits de l'au-delà afin d'indiquer au pharaon les dangers de ce monde et la manière de s'en préserver. Ainsi, le défunt souverain, habité par cette connaissance lors de son voyage dans la douate, pourra continuer d'être le garant de ce que les Égyptiens appellent la Ma'at, l'harmonie de l'univers, en vainquant Apophis, incarnation du chaos terrible et incontrôlable qui tente sans cesse de perturber l'équilibre du monde. Par ce texte, l'angoisse de la mort, que chaque culture gère à sa façon, avec ses rites, ses symboles et sa propre logique, est ici apprivoisée. L'âme douate met des mots sur cet après, nomme les lieux, les personnages et les événements de cet inconnu terrifiant en le transformant en un voyage, balisé d'étapes, encadré par les dieux et dont le défunt royal sort toujours vainqueur. Comme je l'ai dit plus tôt, le texte était réservé au roi, ce qui implique un privilège dans la mort. En Égypte, préparer sa mort est aussi important que de vivre sa vie. L'édification d'une tombe fait partie de cette longue préparation. L'endroit où repose le défunt constitue aussi un témoin des inégalités que la société égyptienne impose devant la mort. De toutes les constructions égyptiennes, la pyramide est de loin la plus connue. Si ce n'est pas spécifiquement l'édifice mortuaire le plus courant, elle reste pour le roi et ses sujets les plus proches. Apparue pendant la 3e dynastie, c'est-à-dire aux alentours de 2600 avant Jésus-Christ, la pyramide supplante alors le mastaba, un édifice rectangulaire en briques crues qui accueillait les dépouilles de souverains égyptiens entre 3100 et 2600 avant Jésus-Christ, le mastaba continuant d'être utilisé en parallèle, mais plus pour les pharaons. La pyramide est le premier édifice en pierre jamais construit par la civilisation égyptienne. Le choix d'un tel matériau pour une construction mortuaire porte une signification symbolique, car en plus d'être prestigieuse, la pierre est impérissable et constitue donc un témoignage éternel de l'existence du défunt qu'elle accueille. D'ailleurs, une des expressions égyptiennes pour indiquer la tombe se prononce Per Jet, ce qui signifie « la maison d'éternité ». Mais les pyramides ne sont pas seules à trôner au milieu du désert. D'abord encadrées d'une enceinte de pierre pendant les premières dynasties, les pyramides s'enrichissent peu à peu d'un canal vers le Nil et de tout un complexe religieux. Celui-ci comprend entre autres ce que l'on appelle un temple de la vallée, à l'ouest de la pyramide, censé accueillir le sarcophage du défunt après sa traversée du fleuve, et un temple funéraire à l'est de l'édifice qui accueille le culte du pharaon après sa mort. Encore une fois, cette disposition n'a rien d'un hasard. Si vous vous rappelez bien le mythe de l'âme droite, le dieu soleil entre dans le monde des morts par l'ouest pour en ressortir à l'est. Ainsi, la disposition même du complexe funéraire royal matérialise le mythe. La dépouille du roi rentre par le temple de la vallée à l'occident, poursuit son voyage dans la pyramide et renaît symboliquement à l'est avec le culte funéraire qui lui est offert par les vivants. Progressivement, la construction de pyramides va être abandonnée. Dès la 18e dynastie, aux environs de 1500 avant Jésus-Christ, les souverains égyptiens font creuser leurs tombeaux dans la roche de la vallée des rois. Et à partir de là, l'architecture des tombes royales ne va globalement pas trop changer. Les tombeaux sont ainsi séparés en deux parties. L'entrée, qui se trouve au-dessus du sol, accueille un lieu d'offrande décoré, hermétiquement séparé de la chambre funéraire qui se trouve, elle, sous le sol. La richesse des décorations dans l'entrée d'une tombe dépend entièrement du statut social du défunt. Plus que des ornements superflus, ces éléments remplissaient une fonction très simple, prendre soin du mort. Mais alors, comment ? Eh bien, l'entrée de la tombe, aussi appelée chapelle, accueille en fait le ou les noms du défunt ainsi qu'une formule d'offrande en plus des décorations. Prononcer le nom d'un défunt le vivifie dans l'au-delà, à la manière de Ré qui, dans le mythe de l'âme droite, prononce le nom des morts et leur donne vie par la même occasion. La formule d'offrande, elle, donne la nourriture dont le défunt a besoin pour subsister. Ainsi, avoir une tombe richement décorée était donc un moyen d'attirer des visiteurs, qui, après avoir observé la tombe, prononçaient le ou les noms du défunt et la formule d'offrande qui va avec. Enfin ça, c'est quand le visiteur en question est bien intentionné. Les tombeaux égyptiens, qu'ils soient royaux ou non, ont très longtemps attiré l'avidité des plus malhonnêtes, y compris au temps des pharaons. Les tombes les plus importantes étaient surveillées par des gardes pendant une période donnée, mais la tombe finissait toujours par être abandonnée et plus tard, pillée. À vrai dire, on ne compte plus le nombre de déceptions d'archéologues fouillant des tombes et se heurtant à des salles vides dont on voit encore le saccage des pilleurs partis à la hâte. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans une tombe égyptienne, apprenez quelques hiéroglyphes et rendez hommage aux morts.
Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM à la découverte de l'histoire.
Si l'Égypte a développé tout cet attirail de constructions liées à la mort et la vie qui la suit, encore fallait-il construire tout ça. C'est pour cette raison que des villages entiers de travailleurs vivaient à proximité des vallées où étaient enterrés les membres de la famille royale ainsi que leurs plus hauts fonctionnaires. Contrairement à ce qui est souvent raconté, les tombeaux des pharaons n'ont donc pas été construits par des esclaves dont on n'hésitait pas à sacrifier la vie pour mener à bien l'ouvrage. Le village de Deir el-Médineh, à qui l'on doit une bonne partie des tombes de la Vallée des Rois, nous a livré beaucoup de documents sur la vie quotidienne de ses artisans, ce qui est très rare dans l'étude de l'Antiquité orientale. Déjà, les artisans étaient des fonctionnaires dont le statut social, sans être trop important, demeurait assez élevé. Leur situation leur permettait de se nourrir, de se soigner et de se loger confortablement, parfois même avec du mobilier en bois, signe de grande richesse. En contrepartie, ils avaient l'obligation de se donner corps et âme à la construction des tombeaux. Et c'est grâce à la trouvaille de tombes inachevées ainsi que de textes que les archéologues ont pu reconstituer la réalisation d'un tombeau. D'abord, une tombe, il faut la creuser. Alors, les ouvriers testent la qualité de la roche en creusant un petit tunnel dedans. Si la roche était d'assez bonne qualité, ils creusaient la véritable galerie. Ensuite, les murs sont nivelés et lissés pour accueillir la décoration. Si la pierre est très bonne, on la lave simplement, mais si elle est trop friable, on applique une couche de plâtre pour s'assurer que les fresques tiendront dans le temps. On fait venir un ouvrier spécialisé qui sera chargé de dessiner un quadrillage sur la pierre. Ce quadrillage va servir au scribe des contours, un dessinateur qui va réaliser les premières esquisses de décoration à l'encre rouge selon des canons proportionnels et esthétiques très précis. Un chef dessinateur arrivé derrière pour corriger le tracé des contours en noir. Et si la tombe devait être sculptée, et ce n'était pas toujours le cas, une équipe d'ouvriers spécialisés sculptait la pierre en fond, de manière à faire ressortir les formes en relief. Enfin, les tracés étaient peints à l'aide de pigments. De l'ocre pour les couleurs chaudes comme le rouge ou le jaune, ou encore de la malachite et du cuivre broyé pour les verts et les bleus. Hormis quelques rares exceptions, seules les chapelles des tombes étaient décorées, tandis que les chambres funéraires restaient vierges de toute décoration. Il arrivait parfois que le souverain pour lequel les ouvriers préparaient la tombe ne décède avant qu'ils aient pu terminer. Dans ce cas, les artisans s'empressaient de finir l'ancien ouvrage avant de commencer une autre tombe pour le souverain nouveau, récupérant de sa part une grosse contrepartie pour la soudaine surcharge de travail. Un autre aspect de la pensée égyptienne sur la mort, le dernier que j'évoquerai aujourd'hui, nous est donné dans la façon dont les Égyptiens préparaient leurs défunts. J'ai nommé la momification. Il faut savoir que la momification est un processus qu'on retrouve en Égypte, mais aussi dans d'autres régions du monde avec des méthodes différentes. Cependant, les Égyptiens avaient un lien très particulier avec cette méthode de conservation des morts, puisqu'ils l'ont utilisée pendant plus de 3000 ans, jusqu'à l'ère chrétienne. Alors, comment est née cette pratique dans l'esprit des Égyptiens ? Eh bien, chez les scientifiques, les opinions divergent. Certains chercheurs pensent que cette pratique aurait été découverte par hasard. Selon eux, lorsqu'un corps est enseveli dans du sable, ses chairs s'en retrouvent très bien conservées. Il se pourrait donc qu'au détour d'un corps retrouvé enseveli dans le sable du désert, l'intégrité très bien conservée de ce corps aurait pu donner aux Égyptiens l'idée de momifier leurs morts. Une autre théorie est que c'est déjà dans le système religieux égyptien qu'on trouve l'origine de la momification. Les plus anciennes momies égyptiennes jamais découvertes ont été retrouvées avec la tête séparée du corps, posée sur le torse entre les mains du défunt. Or, nous disposons d'un texte retrouvé dans une pyramide s'adressant au défunt et disant ceci. « Ô roi, lève-toi, prends ta tête, rassemble tes os, rassemble tes membres. Lève-toi, ô roi, car tu ne périras pas. » On voit dans cet extrait un lien très étroit entre le texte qui ordonne aux morts de prendre sa tête pour se lever et la posture mortuaire des premières momies. Retrouver, je le rappelle, la tête sur le torse entre les mains du mort, comme s'il était prêt à en faire quelque chose. En tout cas, sympa comme comité d'accueil. La momification en Égypte est une technique très codifiée. On compte trois façons différentes de momifier selon la classe sociale du mort. Et autant vous le dire, âme sensible, s'abstenir. La technique la plus sophistiquée, celle utilisée pour les personnages les plus importants du royaume, consiste à retirer le cerveau du mort à l'aide d'un crochet qu'on fait passer par le nez. Les parties du cerveau que l'on n'arrive pas à récupérer sont lavées et ensuite on ouvre un des flancs du corps pour en retirer les viscères. Une fois de plus, on lave l'intérieur avec un mélange de vin de palme et d'épices, on le remplit de myrrhe et d'autres plantes aromatiques avant de recoudre le flanc. Après cela, on immerge le corps dans l'ingrédient le plus important de la momification. Le natron, une sorte de sel qu'on retrouve uniquement dans les pays chauds ou désertiques, et qui va servir à absorber les fluides de décomposition du corps pendant toute sa période d'immersion, soit 70 jours. Période au bout de laquelle on lave une nouvelle fois le cadavre, on le recouvre d'huile avant de l'envelopper dans des bandes de lin, sur lesquelles on a appliqué une sorte de gomme collante. Enfin, le corps est placé dans un sarcophage en bois, sur lequel est peint un visage à l'endroit de la tête, et on restitue la momie à la famille. La deuxième manière, moins prestigieuse, ne retire pas les viscères par incision, mais les dissout par l'injection d'une huile de cèdre dans l'anus, qui a pour effet de liquéfier les organes de la digestion pendant les 70 jours passés par le défunt dans le natron. Le liquide est enfin, si j'ose dire, vidangé au dernier jour, bon appétit. Pour les pauvres, on lave simplement les viscères et on plonge le corps dans le natron pendant la durée requise, sans autre soin. Rien dans la technique de momification n'est faite au hasard, car toutes les étapes du processus ont une signification religieuse pour les Égyptiens et témoignent de leur rapport à la mort. Déjà, le but principal de la momification est de permettre au défunt de conserver au mieux son enveloppe charnelle pour sa vie dans l'au-delà. L'action de bander le corps était accompagnée de sorts, lus par un prêtre, pour conférer au bandage la capacité de protéger et de garder magiquement le défunt. L'ajout d'une amulette inscrite de formule finissait d'assurer la protection physique du défunt dans la douate. Les 70 jours dans le natron font probablement référence aux 70 jours nécessaires à la disparition et la réapparition de Sirius, une étoile que les Égyptiens associent à Osiris, le dieu régnant sur l'au-delà. Pour ceux dont les viscères sont retirés à la main, ces derniers sont considérés comme sacrés. On les place dans des canopes, c'est-à-dire des bocaux hermétiquement fermés, avant de les enterrer près de leur propriétaire pour que ses entrailles puissent l'accompagner dans l'au-delà sans que le corps ne se décompose. Le cœur, lui, n'est jamais retiré, car il est considéré comme le réceptacle de la conscience, des sentiments et de la vie. Le métier d'embaumeur est exercé uniquement par des prêtres d'Anubis, le dieu à tête de chacal, responsable de la momification. Il possède bien entendu des connaissances anatomiques et exerce proche des nécropoles qui sont à l'écart des villes. Ainsi, en Égypte, le monde des morts et celui des vivants sont bien séparés, comme je le disais lorsque j'évoquais la signification symbolique du Nil pour la culture égyptienne dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous y invite, mon petit doigt me dit que ça vaut le détour. On ne momifie pas que les humains, mais aussi et même beaucoup plus les animaux. Chats, lapins, chiens, babouins, canards, taureaux, lions ou encore crocodiles, que ce soit en sa qualité d'animal de compagnie, de provision dans l'au-delà ou d'offrande destinée à provoquer l'exaucement d'un vœu, l'animal n'est, à ma connaissance, jamais momifié pour lui-même, mais toujours à travers un être humain. La seule exception étant pour les animaux considérés comme sacrés, qui ont reçu un culte de leur vivant, ou même après leur mort. Que ce soit à travers les hommes, leurs mythes, leurs dieux, leurs constructions jusqu'à leur métier ou leur statut social, l'entièreté du monde égyptien est régie par la mort. Cette peur inhérente à chaque être que la culture égyptienne combat à l'aide d'un récit, celui d'une vie dans l'au-delà, une vie dans la mort qui doit paradoxalement être méticuleusement préparée durant la vie sur Terre. Si la société égyptienne tente absolument à séparer le monde des vivants et celui des morts, elle en arrive inévitablement à les faire communiquer. Alors la prochaine fois que vous vous demanderez comment notre société en est arrivée à concevoir des robots ralentisseurs de vieillissement, coloniser une autre planète ou encore faire des liftings, rappelez-vous. La mort est à l'origine et au centre de la culture. C'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode des Antiquités orientales sur la civilisation égyptienne. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à l'équipe de Radio Campus Paris qui produit cette émission. N'hésitez pas à suivre aussi cette aventure sur Instagram, @les-antiquités-oriental, et sur Facebook en tapant les Antiquités orientales dans la barre de recherche. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et comme on dit en égyptien, Inedje her.